me disais, il y a quelque chose à faire là. Alors voilà pour la voie fugitive. La deuxième voie de mirage dans la vie intérieure, je l'appelle la voie exhaustive. J'aurais le goût même d'inventer le mot et de l'appeler la voie complicative. C'est la voie, c'est le mirage où on s'engage facilement. Le problème, c'est qu'il y a une proportion trop grande d'absorption par rapport à la période qu'on s'accorde en fait de digestion. Et si, sur le plan matériel, on peut avoir une indigestion à trop manger, c'est également vrai sur le plan spirituel. Il faut une modération dans ce que l'on cherche à apprendre et à connaître spirituellement. Dans le domaine physique, bien, si je fais des imprudences à l'heure du dîner, il se peut qu'avant que la journée se termine, j'en ai déjà les effets. Et puis que le lendemain, bien, je sois un peu plus prudent à suivre une diète. Mais dans le domaine spirituel, les effets sont plus lointains, sont aussi néfastes. On commence par une période là où plus ça va, moins on voit, moins on comprend. Ça se comprend. On va écouter tel prédicateur qui nous dit que ce qui est important, c'est ça. Puis la semaine suivante, on entend un autre qui nous dit que ce qui est important, c'est ceci. Alors, est-ce que c'est ceci ou cela? Et puis, quand arrive un troisième, puis c'est une autre affaire. Puis l'un met l'accent sur ceci, puis l'autre met l'accent sur ça. On lit un volume, on est emballé, on en lit un autre, encore emballé. On prend des résolutions, on en prend d'autres. Il vient un moment où on est étourdi. Et étant étourdi, on devient facilement insécure. Et on marque le pas. Cette fringale de tout savoir et de tout comprendre, elle se manifeste également au niveau des chercheurs. J'ai beaucoup de respect personnellement pour nos théologiens, pour nos hommes de recherche. J'ai moi-même, pendant des années, consacré le meilleur de mon temps à la recherche, à l'enseignement universitaire. Alors, je ne dénigre pas ça du tout. Mais il y a de l'abus dans l'aspect scientifique consacré au spirituel depuis Vatican II. On est tombé dans un intellectualisme, là, exagéré. Et à vouloir emprunter ce qui était bon, les méthodes d'analyse humaine, scientifique reconnues pour faire de la recherche et de l'analyse, on est venu tranquillement à oublier que ce qu'on analyse, c'est quand même le message du Seigneur, l'action du Seigneur. Et puis que tout ne peut pas, dans ce domaine-là, se mettre en tableau synoptique. Et on n'a pas la réponse à tous les quand, les pourquoi et les comment, immédiatement. Et que notre logique et la sienne ne se contredisent pas, mais la sienne dépasse la nôtre. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, cette fringale de tout connaître et de tout savoir devient une occasion de freiner le leadership de l'Église. Je connais plusieurs évêques qui seraient heureux, après avoir bien prié puis consulté, de prendre des positions de successeurs des apôtres. et qui, à mon avis, tomberait juste et serait à point désiré et souhaité. Ils n'osent pas le faire parce que immédiatement ils auraient une contraction de certains sociologues, psychologues, pédagogues, théologiens, tout ça, qui diraient qu'il faut faire une analyse plus poussée. Et alors, quand cette analyse est faite et refaite et re-refaite, et que les conclusions sortent, le chef d'Église ne sait plus par quel bout commencer, puis ne sait plus comment se prononcer et s'abstient. Et j'ai vu ça de très nombreuses fois. On dit souvent, bien, pourquoi les évêques ne se prononcent pas plus souvent? Pourquoi ils ne prennent pas position? Bien, il y a souvent des motifs bien intentionnés qui jouent, mais qui sont là. Alors on arrive à une complexité, une spontanéité. Et je vois beaucoup d'hommes de recherche actuellement qui étudient tous les mouvements post-conciliaires de renouveau spirituel et qui étudient ça absolument comme si ils étudiaient là, le syndicalisme au Moyen Âge ou bien un parti politique aux États-Unis ou bien une mode canadienne. Ben, ils étudient le renouveau conjugal, le renouveau charismatique, le renouveau quel qu'il soit dans l'Église, ils étudient ça absolument là comme si c'était des choses où le Seigneur est tenu de suivre les procédés habituels, où le Seigneur ne peut pas, à un moment donné, sauter certaines étapes et ne peut pas donner des grâces extraordinaires qu'on ne peut pas expliquer humainement. Alors, ils sont là, ils surveillent. J'en connais un certain nombre qui viennent assister à des réunions de ces groupes-là. Mais ils vont s'asseoir là, dans le dernier siège, là, puis ils vont être sur le côté avec leur cahier de notes, là, puis observent. C'est pas ça. Quand on arrive dans le domaine spirituel, pour vraiment comprendre et connaître, il faut expérimenter. Tous ceux et toutes celles qui ont vécu des expériences dans différents groupements de renouveau spirituel sont les premiers à dire qu'à la première réunion, ils ont été désemparés souvent. Et on ne peut comprendre ce qui se passe dans l'Église depuis Vatican II qu'en allant partout chercher le Seigneur et rencontrer le Seigneur, et non pas des modalités humaines. Dans la voie exhaustive, je classe également la fringale de faire tout le bien. Cette incapacité de dire non, dont j'ai parlé cet avant-midi. Vous savez, c'est difficile d'un moment donné de se résigner à ne pas accueillir quelqu'un en direction, à ne pas accepter tel enseignement, telle animation, à ne pas aller à telle rencontre ou à telle chose, parce qu'on sent, si on est vraiment dans le Seigneur, qu'il y a du bien à faire. Et la tentation, c'est à un moment donné de se croire indispensable. Et plus grave que de se prendre pour un autre, c'est de se prendre pour l'autre, avec un grand A. Et il y a un danger à l'heure actuelle, et il y a des idées en circulation que je ne conteste pas, mais qui créent des drôles de pression sur les gens. Quand certains croient que on s'oriente vers la fin des temps, et je ne conteste pas ça, Et qu'alors que certains prennent cet argument en se disant, il ne nous reste pas grand temps, il n'y a pas de temps à perdre, et se servent de cet argument pour s'embarquer à 100 000 à l'heure, ça, je ne suis plus d'accord. Parce qu'à ce moment-là, c'est un manque de foi. Ils croient que d'ici le retour du Seigneur, c'est à nous d'avoir tout fait, le bien faire. Alors qu'on sait très bien que le Seigneur peut dans un instant faire tout le bien qu'il y a à faire. Il est capable de le faire. On parle de l'Indochine de ce temps-ci. C'est l'année dernière ou il y a quelques années, à un moment donné, le Seigneur a envoyé son Esprit Saint sur un village complet. À une heure donnée, tout le monde qui était dans le village, puis était partout, ont reçu une effusion de l'Esprit Saint, puis tout le monde ne comprenait plus, tout le monde était couru à l'église, puis tout le monde est arrivé, l'église était envahie, les gens étaient autour de l'église, tout le monde chantait, priait en langue, ils ne comprenaient rien. Le Seigneur avait envoyé son Esprit sur tout un village, puis il l'a refait à d'autres reprises dans d'autres parties du monde. Alors, pour lui, ce n'est pas à moitié de sa force, s'il voulait régler des affaires d'ici son retour. Mais à nous, individuellement, il demande d'être ses instruments en qualité, pas en quantité. Quand j'arriverai à la fin de ma vie, le Seigneur ne me dira pas « Comment ça se fait que tu as donné rien que 14 entrevues tel jour, tu aurais pu en donner 18? » Il va me demander « Comment se fait-il que dans les 14 entrevues que tu as accordées ce jour-là, il y a 3-4 personnes que tu n'as vraiment pas reçues comme je les aurais reçues? » Ben oui, mais Seigneur, 14, j'étais pris, j'étais fatigué, puis ça. Réponds à ma question. Pourquoi ne les as-tu pas reçus comme je t'ai demandé? Ils n'ont pas vu le Seigneur en toi, puis tu ne m'as pas vu en eux. Ah! Puis toujours en blaguant, le Seigneur nous a dit, soyez parfaits comme mon Père. Il n'a pas dit, soyez partout. Et personnellement, je ne suis pas impressionné par ceux qui ont cette spiritualité-là du jusqu'au coton. Tu sais? Parce que dans ce domaine-là, comme dans le domaine du son, quand on passe la barrière du don, comme dans la barrière du son, ça fait boum. Et puis, c'est s'illusionner que de croire qu'on puisse toujours, à toute vapeur, dans tous les cas, jour et nuit, fin de semaine, donner le Seigneur et le retrouver. Alors ça rejoint ce que je disais ce matin. La troisième voie, qui est un mirage pour nous dans la vie intérieure, c'est ce que j'appelle la voie sélective. Le message chrétien est un message où il n'y a pas d'absolutisme exclusif. Ce qui me frappe dans le message chrétien, c'est que pour le comprendre, pour le pratiquer, il faut constamment intégrer 2, 3, 4 composantes. Et quand on n'en prend rien qu'une des composantes, on l'isole, fait la sélection, puis on le met à part, on déchire, on dévie, on fait une distorsion malheureuse. Et souvent, des chrétiens et des chrétiennes bien intentionnés, sous prétexte de faire valoir un point important, le montrent tellement en épingle et tellement en évidence qu'ils le sélectionnent et le sépare des autres éléments qui nuanceraient, compléteraient et ajusteraient les choses. Et alors, cette tendance à un faux radicalisme se retrouve soit quant au thème, aux objectifs, soit quant aux moyens, soit quant au mode de ressourcement, soit quant aux manifestations, aux expressions. Alors, je le répète, ça part d'une bonne idée, des gens qui veulent s'engager à fond et se donnent à fond. Mais la cause pour laquelle ils se donnent, ils l'ont exclu de tout l'ensemble des autres aspects. Prenons simplement, je vais donner rapidement quelques exemples, le temps avance. Le tandem charité et vérité. On a connu toute une période de notre vie où on nous disait il faut être charitable. Alors taisez-vous, parlez pas. Encaissez, pour ne pas faire de chicane. Alors, on avait développé une espèce de cordialité extérieure. On avait des réunions, les gens ne pensaient pas la même chose, même n'étaient pas d'accord sur le fond, mais ça ne paraissait pas. C'était cordial. On se séparait, puis dans les bouts des corridors, là, on se mangeait tout rond. Mais la charité, là, on croyait que pour vraiment pratiquer la charité, il fallait immoler la vérité. Arrive Vatican II, puis on dit aux gens, bien, il faut avoir le courage de ses opinions, il faut s'affirmer. Alors là, on a toute une génération de gens là qui ont fait comme idéal de la vie chrétienne la défense de la vérité, l'affirmation de la vérité. Vatican l'a dit, il faut s'exprimer, je m'exprime. Ils disent la vérité, mais ils assomment, ils divisent, ils blessent, ils rapetissent. Alors, leur culte, c'est la vérité. Et on a de plus en plus là, de ces gestes-là, signés par des chrétiens, des prêtres, des religieux, des religieuses, qui tout à coup là, font une grande pétition, puis dénoncent au droit, au nom de la vérité, telle chose. Ils compromettent la réputation de quelqu'un, ils compromettent une œuvre, ils mettent la chicane dans la cavale, mais ils défendent la vérité. Mais non. Le message chrétien exige qu'on pratique la charité en exprimant la vérité et qu'on dise la vérité en pratiquant la charité. C'est pas mal plus difficile que faire l'un ou l'autre. Alors, quand je suis un chrétien, je me dis, je dois absolument dire la vérité. Cette personne-là ne me plaît pas, j'aime pas ses idées, j'aime pas son comportement, c'est la vérité que je dois dire. Mais parce que je suis baptisé, je me demande, Seigneur, donne-moi ta grâce pour être capable de lui dire avec amour. Et ça se peut qu'à ce moment-là, cette grâce-là me dicte de le dire à un autre moment que celui qui ferait mon affaire. Mais le moment qui serait peut-être le meilleur pour cette personne-là. Ça se peut que la grâce d'amour que le Seigneur me donne me dicte de lui dire en deux fois ou en trois fois, de doser ma vérité, de ne pas la sacrifier, mais la doser. On convient, nous autres, qu'une infirmière doit doser ses injections non pas à sa capacité à elle, mais à la capacité du malade de recevoir l'injection. Si le médecin le prescrit en trois injections, puis elle dit, oh, ben, il me semble, moi, que ça peut se donner en une, puis elle décide de le donner en une. Non. Alors, vérité, charité. La même chose, prière, action. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, en tout cas, c'est vrai que je prie beaucoup puis que je ne m'engage pas, mais ça compense pour ceux qui s'engagent puis qui ne prient pas. Puis les autres qui disent, c'est vrai que je m'engage puis je n'ai pas le temps de prier. Mais quand je vois tous ceux qui prient et qui ne s'engagent pas, ben moi je m'engage pour ceux qui prient et qui ne s'engagent pas. Qu'est-ce que ça donne? Ça n'a pas besoin d'être baptisé pour raisonner comme ça. Mais d'être capable d'équilibrer une vie de prière et d'action, c'est un problème. Problème des guérisons. C'est clair et net que le Seigneur veut guérir, que le Seigneur fait des guérisons. Il n'y a pas à en douter. Nos chercheurs sont encore à se demander si c'est de l'imagination et tout ça. Je leur souhaite de leurs propres jambes se mettent à pousser, puis après ça, ils comprendront. Mais, il faut faire attention. Il y a dans le message chrétien le mystère de la souffrance. Et il se peut que le Seigneur laisse quelqu'un sans guérison et l'associe à sa passion. Alors, quelqu'un qui dit, Ah non, les guérisons, ça n'existe pas. Il faut se résigner à la souffrance, puis c'est la volonté du Seigneur. C'est facile. Ceux qui disent, Seigneur, guéris, guéris, priez, puis je manquais de foi, puis si vous n'êtes pas guéri, je manquais de foi. C'est facile, ça aussi. D'être capable de conjuguer le désir du Seigneur, de guérir, et de choisir des personnes pour les associer à sa passion, en les laissant continuer une période sans guérison ou souffrance, ou en les rappelant à lui, c'est quelque chose. La prévision puis l'abandon, c'est le même problème. Les gens qui disent, ben, je m'en remets au Saint-Esprit, puis qui concluent que s'en remettre au Saint-Esprit, c'est de la simple improvisation. Cela, improviser, ça veut dire, étymologiquement, puiser dans ses provisions. Alors, il y a des gens qui vont dire, ben, vous préparez vos homélies, vous préparez vos enseignements. Voyons, s'en remettre au Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit n'était pas agissant au moment où quelqu'un prépare une homélie, prépare une intervention, prépare une animation. Le Saint-Esprit est là dans la préparation. Et quand cette préparation est faite, ce n'est pas un manque d'abandon. Après ça, de commencer à donner son enseignement, son animation, son homélie en disant, Esprit-Saint, empare-toi de moi. Puis il va s'en charger. Il va laisser tomber des affaires qu'on avait prévues. Il va nous en donner des nouvelles en cours de route. C'est là qu'on sent sa présence. Mais les gens qui croient que s'en remettre à l'Esprit-Saint, c'est simplement